Chapitre 7. Le secret révélé du triangle cauchois. Quelques minutes plus tard, il descendait la Seine, repassant à toute vitesse les méandres qu'il venait de franchir. Une nouvelle fois, les deux immenses triangles du pont de Bretonne fascinèrent Paloma. Elle sentait le poids du fin triangle d'argent autour de son cou. Le professeur désigna une vaste usine sous le pont de Bretonne.
« Si nous avions été pressés, cria-t-il en riant, nous aurions pu prendre un hydravion. On teste ici des hydravions depuis 1917, dont les fameux LATAM. Les entrepôts possèdent un accès direct sur la Seine et ensuite la plus grande ligne droite du fleuve pour décoller.
« Et nous ne sommes pas pressés ?» demanda timidement Paloma, de peur que le professeur n'ait réellement l'idée d'emprunter un hydravion.
« Plus maintenant. Ma promenade touche à sa fin. C'est à vous de jouer maintenant. »
Ils dépassèrent Côte-Bec en coup. Bergton proposa à Paloma de prendre la barre, mais elle refusa. Elle avait posé au fond du bateau sa carte du Pays de Caux, sur laquelle l'ensemble des lieux qu'elle avait visités depuis le matin était entouré. La clé était là, sur la carte. Elle en était persuadée. L'intensité du soleil en cette fin d'après-midi commençait à diminuer. Paloma était toujours simplement vêtue de son court jean et de son t-shirt moulant. Le rythme rapide du bateau l'éclaboussait régulièrement et son t-shirt humide commençait à lui coller au corps. Elle frissonna. Elle pensa qu'elle devait être ainsi particulièrement désirable. Mais curieusement, cette envie de séduire le beau professeur passait au second plan. L'énigme accaparait entièrement son esprit. Elle offrait alors sans arrière-pensée ses formes juvéniles, dévoilées presque intégralement au regard du professeur. Celui-ci, galamment, offrit sa veste de toile à la jeune femme. Elle accepta sans scrupule. Elle remarqua au passage que la chemise blanche du professeur était elle aussi mouillée, laissant deviner un torse qu'elle évalua d'un regard, plus musclé qu'elle ne l'aurait cru. Elle se concentra à nouveau sur sa carte, tentant de la protéger des éclats de vagues qui venaient se casser sur la coque orange. Lorsque Bergton lui désigna les magnifiques châteaux de Villequier et d'Etlan, elle leva à peine les yeux. Elle était proche de la solution, elle le sentait. Des lieux, des lignes, et ses deux clés, le nombre 12 et le triangle. Elle se tenait accroupie au-dessus de la carte. L'ombre d'un triangle, celui de son collier, dansait sur la carte, comme un symbole. Le soleil, à travers le cristal du dodécaèdre, éclairait également la carte d'une petite tache de lumière, parcourant la carte au hasard des graciles mouvements de cou de Paloma.
« Quillebeuf !» annonça Bergton en montrant la rive gauche. Maurice Leblanc en parle souvent. Dans Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, c'est ici que le gentleman cambrioleur kidnappe le détective anglais. Il l'emmène d'abord en voiture le long de la Seine. Duclair, Caudebec, le pays de Caux, dont ils effleurèrent les ondulations de leur vol puissant, et l'île Bonne et Quillebeuf. Puis Arsène Lupin embarque de force l'anglais au large de Quillebeuf, sur le bateau l'Hirondelle, sous bonne garde, en direction de Southampton, avec l'interdiction formelle au capitaine d'arriver avant l'heure fatidique qui permettra à l'anglais de reprendre un ferry pour la France dans la journée. Pourtant, le détective anglais, au grand dam de Lupin, reviendra à Paris beaucoup plus vite que prévu, grâce à une jolie astuce.
Laquelle ? Demanda Paloma, toujours accroupie dans le bateau, en relevant les yeux.
Avancez l'heure de toutes les pendules et de toutes les montres sur l'Hirondelle.
Plus que les jolies façades du front de Seine du petit village de Quillebeuf, le regard de Paloma et son odorat furent attirés par l'autre rive. Elle resta sans voix, devant l'incroyable complexe pétrolier de Port-Jérôme. Une véritable forêt de cheminées d'usines, une incroyable jungle industrielle.
Un souterrain que Leblanc n'avait pas imaginé, ironisa Bergton.
Lequel ?
Un souterrain qui part d'Étretat, court sous le pays de Caux pour aboutir ici, face à la Seine.
Lequel ? Insista Paloma, intriguée.
Les oléoducs. Les oléoducs qui relient le terminal pétrolier d'Antifer, en front de mer, aux raffineries du bord de Seine, le plus important complexe de France.
Paloma se replongea sur sa carte. Quelques minutes plus tard, ils accostaient au bord du petit village de Tancarville, sous l'ombre du fameux pont. Paloma replia sa carte, furieuse. Elle n'avait rien trouvé. Bergton regarda sa montre.
un peu plus de 20h15. Paloma le regarda. Elle savait aussi que Tancarville était la dernière étape.
« Quand faites-vous vos valises ?» demanda Paloma.
« Rassurez-vous, j'ai toute la nuit. »
Il regarda la silhouette imposante du château de Tancarville, fièrement dressée sur un piton rocheux, semblant commander entre terre et mer l'entrée du grand estuaire.
« C'est le dernier lieu du triangle cauchois très cher au cœur de Maurice Leblanc, » précisa le professeur.
« Toujours un lieu de villégiature ?»«
Oui. À partir de l'été 1912, Maurice Leblanc y habitera avec sa femme et son fils Claude. Il est loué lui aussi par sa sœur Jeanne. Ils y viendront très souvent, l'été ou à Noël. Ils y recevront également les gloires et célébrités de l'époque. Leblanc y écrira beaucoup. Il y trouvera l'inspiration, notamment dans le bureau où il s'isole, la tour de l'aigle. Cette tour là-haut qui domine le château.
Un nom évocateur ?
Bien entendu. Maurice Leblanc savait choisir ses lieux d'inspiration. Vous avez pu le constater, les plus beaux sites de Haute-Normandie. Il écrira notamment ici une partie du « Bouchon de cristal ». Observez, Paloma, les deux grosses tours, le site abrupt, le formidable donjon, les ruines gothiques. Arsène Lupin croisera souvent cette silhouette et ces ruines dans ses aventures, même si Leblanc transposera ce château dans beaucoup d'autres sites. Il décrit Tancarville dans « Le bouchon de cristal » sous le nom de Mortepierre, dans « La femme aux deux sourires » sous le nom de Volnic. La tour Coxard du château deviendra la tour Coxin du château de Roche-Périac dans Dorothée, danseuse de cordes. L'imaginaire château de la Haie des Tigues, à Bénouville, comme je vous le disais, est lui aussi inspiré du château de Tancarville. Il évoque aussi un souterrain bien réel qui va du donjon du château à un puits dans la cour.
Et le vieux phare ?
On le trouve un peu plus loin, à quelques centaines de mètres. On le voit parfaitement du pont de Tancarville.
Pourquoi Leblanc a-t-il choisi ce vieux phare comme décor de son roman ? Encore un souvenir personnel ?
Vous avez deviné une fois de plus. À partir de 1927, l'autre sœur de Maurice Leblanc, Georgette, loue le vieux phare de Tancarville, à 10 minutes à pied du château. La famille Leblanc est réunie ici. Un lieu lui aussi terriblement romantique, ce vieux phare. Maurice Leblanc nous le décrit dans « La comtesse de Cagliostro » comme inhabitable, au milieu des bois que l'on voit au-dessus de nous. Une partie de ces bois, indépendants du parc, s'étend jusqu'à la Seine et couvre les falaises. Des chemins rayonnent d'un carrefour central et l'un d'eux mène par des gorges et des pentes brusques vers un promontoire abrupt où se dresse, à moitié visible, le phare abandonné. Si on monte au belvédère, c'est la vue la plus grandiose sur le canal de Tancarville et sur l'estuaire du fleuve. Mais en bas, on était, à cette époque, enfoui dans la nature.
Quel talent tout de même ! Transformer son espace de vie quotidien, les chemins qui mènent de chez lui à chez sa sœur, en ces décors tragiques qui font le sel de ses romans.
À moins que ce ne soit l'inverse, philosopha Bergton. Il ne nous reste plus qu'à parler du dernier roman normand de Leblanc, et la boucle sera bouclée.
La Bariva ? C'est vrai, vous ne m'en avez pas encore parlé. Alors allez-y. « Livrez-moi ces derniers indices, en espérant que vienne la lumière. »«
D'abord, on mange. J'ai une faim terrible. Je n'ai rien avalé ce midi. »
Ils s'installèrent sur une des terrasses du village de Tancarville, profitant une nouvelle fois du paysage sublime. Le profil du romantique château dans la lumière du soir, les couleurs extraordinaires du grand estuaire à l'infini, et tout près, le contraste violent de la modernité du pont de Tancarville. Ils commandèrent des plats rapides, omelette et croque-monsieur. Bergton commença.
Le roman « La Bariva » est un roman particulier, un des derniers de Maurice Leblanc, écrit en 1930. Le dernier qui se situe dans le triangle cauchois, le dernier qui parle de chasse au trésor. Beaucoup disent aussi que c'est son dernier très bon roman.
C'est vrai ?
Un peu. L'histoire est assez simple. Il s'agit d'un huis clos dans une propriété, « La Bariva », près de Tancarville et du petit hameau de Radicatel, juste à côté. La propriété se situe le long d'une petite rivière perpendiculaire à la Seine, l'Aurel. Arsène Lupin, alias Raoul Davenac, y retrouve son vieux complice, l'inspecteur Théodore Béchou, et y tombe amoureux des deux sœurs, Catherine et Bertrande,
qui réaménage à la Bariva la propriété de leur enfance.
Deux d'un coup, les années n'ont décidément pas de prise sur la santé amoureuse de Lupin.
Bergton regarda Paloma avec amusement.
Vous pensez vraiment que les années ont une incidence sur la santé amoureuse ?
Paloma rougit.
Revenez au roman, professeur.
C'est vous qui m'interrompez, jeune femme. L'intrigue de la Bariva tourne autour d'un trésor caché dans la propriété, et surtout d'un fait incroyable.
Les trois saules, majestueux témoins de l'enfance des deux sœurs, ont été déplacés. Une carte falsifiée du domaine en offre une autre preuve. Après quelques assassinats de témoins gênants, Lupin doit s'attaquer à la résolution d'une énigme laissée en testament par l'ancien propriétaire, une simple série de chiffres.
Il écrivit rapidement une suite de chiffres sur la nappe de la table. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 9, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 3, 1, 4.
Les yeux de Paloma pétillaient à nouveau. Elle n'osa pas interrompre le professeur. Un serveur vint apporter les plats commandés.
La clé de l'énigme, c'est le fameux phénomène de la Bariva. On l'appelle aujourd'hui plus souvent le mascaré. C'est la marée qui remontait la Seine jusqu'à Rouen jadis. Jusqu'aux années 1960, lors des grandes marées, le mascaré, ou la Bariva si vous préférez, était un véritable petit raz-de-marée, particulièrement dangereux, inondant les rives, renversant les bateliers imprudents, mouillant les badauds.
Je me souviens, c'est ainsi que Léopoldine, la fille de Victor Hugo, trouva la mort en face de leur propriété de Villequier.
Et c'est pour elle qu'il composera son émouvant poème, qui raconte sa marche aveugle sur les rives de la Seine. Demain, dès l'aube. Mais tous les bateliers craignaient la Bariva. C'est également le nom d'un hameau juste en aval de Côtebec-en-Caux, en face du pilotage de la Seine, où est érigée la fameuse et adorable petite chapelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et avant elle, sur le même site au-dessus de la Seine, les bateliers priaient la Vierge dans une étrange chapelle bleue qui existe encore.
Encore des mystères ?
Oui. Mais le problème, c'est que la propriété de la Bariva de Leblanc n'est pas située à Côtebec-en-Caux, mais près de Tancarville. On en reparlera tout à l'heure. Donc Lupin, bien entendu, vient à bout de l'énigme. Il part au Havre et s'allonge toute la journée sur le sable de la plage de Sainte-Adresse. À la fin de la journée, il a la solution.
Paloma rit de bon cœur.
Très jolie méthode. On devrait essayer au lieu de courir comme des fous.
Bergton ne releva pas.
La rivière d'Aurel est appelée ainsi car les habitants des environs la pensaient aurifère, transportant des particules d'or.
Merci, répondit Paloma. Je sais ce que veut dire aurifère. Et prenez le temps de goûter votre omelette ou vous allez encore manger froid.
Bergton avala une bouchée et continua.
Cette rivière s'appelait auparavant le Bec Salé, avant qu'on y trouve de l'or en 1759. C'est cette rivière d'or qui attise la convoitise des pillards. Dans la propriété, un tumulus, appelé Butte aux Romains, est traversé par l'Aurel.
Il se tut, regardant son assiette.
Vous avez raison, Paloma, je m'arrête là. Saurez-vous découvrir la suite ? Vous êtes à égalité avec Lupin. Vous avez tous les éléments de l'énigme.
Paloma but un grand verre d'eau.
Ce n'est pas très difficile.
Elle fronça les sourcils.
Mangez, professeur. Vous vous souvenez, vous m'avez parlé ce matin d'un trésor aux Romains. Et tout le monde sait que Lillebonne fut une importante cité romaine, capitale des Calettes, dont on peut encore admirer le théâtre romain.
Continuez,
articula Bergton, la bouche pleine.
Forcément, le trésor des Romains est caché sous le tumulus, appelé justement Butte aux Romains. Au fil du temps, la butte s'est fissurée. La rivière n'est pas aurifère naturellement. Elle traverse le tumulus.
Bergton avala.
D'accord, mais il vous manque un détail important.
J'y viens. Le nom de la rivière, le Bec Salé, indique clairement que la mer remonte jusque-là. Le nom de la propriété, la Bariva, indique l'influence des grandes marées, des marées d'équinoxe, en automne et au printemps. Il est enfantin alors de décoder la suite de chiffres. Du même coup, on sait quand la rivière Aurel entre en contact avec le trésor enterré et se charge en or. D'où les contes, légendes et superstitions dans les alentours autour de ce miracle inexpliqué. Ai-je besoin de vous en dire plus ?
Bergton releva la tête de son assiette, stupéfait.
Quel admirable esprit de déduction. Vous avez tout résolu, sans même prendre le temps de réfléchir, c'est incroyable.
Il posa sa fourchette sur la table et continua.
Mais comme toujours, il reste juste un mystère géographique. Où se situe cette rivière, Laurel, et cette propriété de la Bariva ?
Maurice Leblanc donne des indications précises. Il parle du petit village de Radicatel, le charmant hameau coincé sous la falaise que l'on découvre à quelques kilomètres d'ici si l'on suit la Seine. Je le cite.
Il déboucha en face d'une charmante petite église accroupie dans la verdure naissante, au bas d'une étroite vallée qui monte sur les falaises cauchoises, et près d'une mince rivière sinueuse qui va se jeter dans la Seine. Derrière lui, par-delà les vastes prairies et sur le large fleuve qui tourne autour de Quillebeuf, des nuages fins et longs d'un rose de plus en plus rouge annonçaient la prochaine ascension du soleil.
« Cela pourrait être ici ?» proposa Paloma.
« Tout à fait. Dans la Bariva, Maurice Leblanc cite à de multiples reprises les villes alentour. Lillebonne, bien entendu, plusieurs fois, Radicatel ou Saint-Jean-de-Folleville. À 20 minutes à pied de la Bariva, c'est le village juste au-dessus de Radicatel.
Alors, vos conclusions, professeur ?
Évidemment, depuis la construction du pont de Tancarville et des zones industrielles, l'estuaire a bien changé, y compris la Seine. Mais soyons clairs, il n'existe qu'une seule rivière à peu près perpendiculaire à la Seine. Elle débute juste derrière nous.
Paloma se retourna. Bergton continua.
Le vallon du Vivier, un charmant petit vallon où une promenade pour piétons et chevaux a été aménagée par mes amis du parc de Bretonne.
Des boucles de la Seine.
Oui, d'accord. Des boucles de la Seine normande. Quel stupide nom à rallonge. Il ne pouvait pas garder Bretonne.
Vous parliez de Laurel, professeur.
J'y reviens.
Donc, dans ce petit vallon, perpendiculaire à la Seine, coule tranquillement la douce rivière du Vivier. De plus, Maurice Leblanc, perché en haut de sa tour de l'aigle, avait une vue imprenable sur ce doux vallon.
Alors, Laurel, c'est le Vivier ?
On peut le supposer, puisque Laurel n'existe pas. Mais il n'existe aucun manoir sur les pentes du Vivier.
Le professeur regarda son assiette sans envie et releva la tête.
« Prendrez-vous du café, belle Paloma ? »
Volontiers.